Le journal avec vous, Jérémy Pignard.
Bonjour. Après l'émotion et les hommages, la préparation des funérailles et de la succession du pape François décédé hier. Dans un instant, les précisions de notre correspondant à Rome et l'analyse du chanoine Jean-Marie Nussbaum sur ce qu'il reste des réformes voulues par le pontife argentin. Et si les Franches-Montagnes changeaient de visage, il faut s'y attendre en raison du dérèglement climatique, disent les experts. L'épicéa essence emblématique de la région est notamment en danger. Et au sortir du week-end de Pâques, on s'intéresse à la Bible de Moutier-Grandval et son histoire, en question notamment la traduction latine qui porte, vous l'entendrez, une identité particulière. Visionnaire écologiste proche des démunis, la presse suisse salue la mémoire du pape François disparu hier à l'âge de 88 ans. Le pape dont notre temps avait besoin salue l'écho illustré. Hier soir, des milliers de fidèles se sont retrouvés place Saint-Pierre pour une veillée de prière. Le souverain pontife était apparu une dernière fois en public la veille pour des fêtes de Pâques. Depuis, les hommages affluent du monde entier. La présidente de la Confédération, Karine Keller-Souter, a loué un grand dirigeant spirituel et un défenseur infatigable de la paix. Hommage. Funérailles, succession, que va-t-il se passer maintenant? Les précisions de notre correspondant à Rome, Antonino Gallofaro.
Alors le pape a déjà été mis en bière. Hier soir à 20h a en effet eu lieu le rite de constatation de son décès de la part du camerlingue. Puis des scellés ont été placés sur les portes des appartements pontificaux dans le palais apostolique, comme le veut l'usage. Et ce, même si le pape avait décidé de vivre dans une chambre plus sobre et plus simple dans la maison Sainte-Marthe, là où d'ailleurs il est mort. Aujourd'hui doit se réunir la première congrégation générale. C'est la réunion des cardinaux déjà présents à Rome, chargés de gouverner l'église jusqu'à l'élection du prochain pontife. Et aujourd'hui, ils doivent décider quand exposer le cercueil dans la basilique Saint-Pierre pour un dernier hommage public des fidèles. Selon le Saint-Siège, cela pourrait déjà avoir lieu demain matin. Puis les funérailles devraient se tenir vraisemblablement entre vendredi et dimanche. Selon le testament de François publié hier, il sera enterré non pas dans la basilique Saint-Pierre, mais dans la basilique de Sainte-Marie-Majeure, la même où il se rendait en dévotion à la Vierge Marie avant et après chaque voyage.
Et que restera-t-il de son pontificat? Au-delà de l'humaniste, le pape François avait promis une réforme en profondeur de l'Église catholique sur les questions de gouvernance, transparence financière ou encore de la place des femmes. 12 ans plus tard, les changements restent limités et souvent symboliques. Face aux résistances internes, les ambitions du pontificat se heurtent à la réalité d'une institution difficile à transformer, comme l'explique le chanoine du canton du Jura, Jean-Marie Nussbaum.
Mais c'est normal parce que quand on vient bousculer une institution, une curie qui a ses habitudes, qui a sa manière d'être, eh bien ça va pas tout seul. Il faut du temps et puis on n'aime pas le changement. Hein. Fondamentalement, chacun de nous, dès qu'il faut changer, on n'aime pas ça. Alors le pape a essayé et puis je crois qu'il a quand même un peu réussi de, par sa personnalité à imposer un certain nombre de choses, de simplicité entre autres, et puis de proximité surtout avec les plus pauvres, avec les migrants. Vous vous rappelez peut-être que sa première sortie du Vatican, c'était sur l'île de Lampedusa, où tous ces migrants arrivaient et mouraient. Et je crois que le pape a essayé de le vivre et d'inviter toute l'Église à vivre cela.
Des témoignages de la région à retrouver sur notre site internet rfj.ch. Et dans quelques minutes, à 8h15, nous serons en direct avec le jurassien Tanguy Ackermann, ancien garde suisse auprès du pape François.
Plusieurs chefs d'État et de gouvernement devraient se réunir demain pour discuter du renforcement des efforts face à la crise climatique.
Oui, une réunion lancée par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et le président brésilien Lula en vue de la COP30 qui aura lieu en novembre au Brésil. Le porte-parole de l'ONU parle de créer une véritable énergie pour un succès de la COP, sans préciser cependant quels dirigeants participeront à ce sommet virtuel. Le dérèglement climatique, justement, est en passe de modifier le paysage jurassien. Un rapport de la Confédération sorti récemment dresse le tableau de la situation dans nos forêts et la région n'est pas épargnée. Parmi les essences qui souffrent du réchauffement climatique, l'épicéa, l'arbre emblématique des Franches-Montagnes. Le manque d'eau le rend vulnérable aux ravageurs. À terme, le paysage franc-montagnard pourrait probablement changer, explique Didier Langtin, collaborateur scientifique au domaine forêt de l'Office jurassien de l'environnement.
Oui, alors effectivement, les Franches-Montagnes, elles sont touchées de plein fouet par le réchauffement aussi. Puis c'est vrai que ces peuplements d'épicéas qui sont emblématiques à la région sont vraiment soumis à de fortes pressions en ce moment. Déjà, ils sont affaiblis par le manque d'eau et plus un arbre est affaibli, plus il devient vulnérable, on va dire, aux attaques des ravageurs comme le bostriche. Donc, à terme, il est probablement voué à disparaître du paysage. Il est plus vraiment adapté pour les Franches-Montagnes, quoi. C'est un arbre qui est dédié à rester dans les montagnes. Mais les Franches-Montagnes, il n'y aura pas un problème, il n'y aura pas assez de précipitations pour le maintenir. pense que d'ici 30-40 ans, on aura déjà des paysages qui seront nettement différents. Ouais.
Après Novartis, le groupe pharmaceutique Roche prévoit de gros investissements aux États-Unis.
Roche annonce vouloir investir 50 milliards de dollars dans le pays au cours des 5 prochaines années. Des investissements censés générer plus de 12 000 emplois. Cela comprend de nouveaux sites de recherche et développement de pointe, la modernisation et la création d'installations de production, ainsi que la création d'un site supplémentaire qui devrait être annoncé prochainement. Et puis on apprend ce matin la fusion des assureurs Baloise et Helvetia. Helvetia Baloise, son nouveau nom, emploiera plus de 22 000 collaborateurs pour un volume de primes brutes de 8,6 milliards de francs dans les assurances vie et 11,5 milliards de francs dans les affaires de dommages, ce qui en fera le numéro 2 helvétique de l'assurance avec 20% de part de marché.
Depuis son arrivée dans le Jura, l'ouvrage a l'habitude de côtoyer les superlatifs.
La Bible de Moutier-Grandval, exposée actuellement au musée jurassien d'art et d'histoire de Delémont grâce à un prêt, souvenez-vous, exceptionnel de la British Library, elle est devenue au fil de son histoire une pièce de musée inestimable. Sa nouvelle vie se passe en vitrine pour un ouvrage autrefois destiné à transmettre la parole de Dieu. Le texte en latin est le fruit d'une traduction qui a aussi donné un sens différent à certains passages, explique Didier Béret, diacre et théologien bibliste.
Alors dans la Bible latine en général, oui, un peu. Saint Jérôme, il traduit en 420 après Jésus-Christ. Donc quand il traduit, il y a déjà le christianisme, il est chrétien. Donc il va avoir tendance aussi à relire certains textes de l'Ancien Testament comme s'ils concernaient directement Jésus. Et puis il y aura une tendance, par exemple, à messianiser certains récits ou, par exemple, à la place du mot « salut », il va souvent employer le mot « sauveur » qui désigne directement Jésus sauveur plutôt qu'un salut un peu général. Donc ça fait partie des touches de Saint Jérôme, malgré le fait qu'il dit, et parce qu'il commente aussi sa manière de traduire, qu'il cherche à rester le plus fidèle possible, tout en évitant d'être trop littéral.
Et on vous rappelle que la Bible de Moutier-Grandval est exposée au musée jurassien d'art et d'histoire à Delémont jusqu'au 8 juin.
C'était la dernière journée de la saison régulière en Super League de football hier.
Oui, et Lausanne a arraché sa qualification pour le Championship Group en terminant dans le top 6 en battant Lugano 2-0. Top 6 combiné à la défaite de Zurich 2-1 à Young Boys. Large victoire de Bâle 5-0 devant Yverdon. Servette bat Lucerne 2-1. Sion est tombé à Saint-Gall 1-0. Dans l'ordre, Bâle, Servette, IB, Lucerne, Lugano et... Donc Lausanne disputeront un dernier tour entre eux pour le titre. Une journée globalement ensoleillée ce mardi, mais le retour de la pluie déjà annoncé pour demain. On profite des 18 degrés annoncés en plaine et d'un temps sec ce mardi malgré des bancs nuageux persistants. Le ciel se chargera demain après-midi, donnant lieu à des averses. Les températures devraient descendre alors autour des 15 degrés.